Giordano Bruno. Prédicateur dominicain et philosophe de la fin du XVe siècle après Jésus-Christ, Giordano Bruno s'appuie sur une philosophie néo-platonicienne remplie d'éléments occultes et magiques et s'oppose non sans hargne à la logique aristotélicienne. Son érudition phénoménale le mène à réaliser des synthèses des phénomènes les plus contradictoires. Il se détache petit à petit de toute autorité ecclésiastique et théologique et tombe finalement entre les mains de l'Inquisition qui le condamne au bûcher. Son influence s'exerce sur des esprits tels Johann Herder, Goethe ou Schelling, au travers d'une œuvre importante dont Le Banquet des Cendres en 1584, qui est une vision du cosmos, L'Expulsion de la Bête Triomphante en 1585, un écrit contre les catholiques et les calvinistes, et La Cabale du Cheval de Pégase en 1585, un écrit dirigé contre Aristote. Montaigne. Contemporain de Giordano Bruno, Michel Eckem, seigneur de Montaigne, inaugure un genre littéraire qui consiste en l'étude et l'analyse du comportement de l'être humain. Il se signale par un humanisme modéré et plein de bon sens. Pour extérioriser sa pensée, l'auteur traite en s'appuyant sur la tradition de l'Antiquité d'un certain nombre de problèmes relatifs à la philosophie de la vie. Sa formule « que sais-je » est marquée de scepticisme, elle invite à s'abstenir de tout jugement hâtif. Une grande partie de ses observations sont fondées sur l'examen de son propre moi et forment le fond même des essais, écrits en 1580. La philosophie du XVIIe siècle. Plusieurs grandes figures dominent la pensée au XVIIe siècle, comme Bacon, Hobbes et Descartes, qui font entrer la philosophie dans les temps modernes. Ensuite viennent Spinoza, Leibniz et Locke, qui lui donnent des perspectives nouvelles. Bacon. Né à Londres en 1561, Francis Bacon fait ses études à Cambridge et s'initie rapidement aux sciences juridiques et politiques. Il est vite investi des hautes charges et obtient la place de grand chancelier avec le titre de baron de Verulam. Sa chute est aussi rapide que son ascension car en 1621, accusé de concussion, il reconnaît les faits et est destitué de son poste. Il se retire sur ses terres et rédige pendant cette période la plupart de ses écrits philosophiques. L'œuvre complète devait s'intituler Instaurio Magna Scientiarum ou Grande Restauration en français et comportait 6 parties. Seules les 2 premières sont achevées, De Dignitate et Augmenti Scientiarum et Novum Organum. Le reste de son ouvrage est resté à l'état d'ébauche. Il s'impose dans l'histoire de la philosophie comme le précurseur de la méthode expérimentale moderne. Les obstacles à la science. Son Novum Organum, ou Nouvelle Logique en français, comprend 2 livres qui ont pour objet d'écarter les idoles ou les obstacles qui s'opposent aux sciences. Dans le premier, il passe en revue tous les obstacles qui ont entravé le progrès de la science. C'est là un véritable exposé de la méthode inductive qui doit remplacer la méthode déductive. Le second montre quelles règles il faut suivre pour utiliser cette méthode. De Dignitate et Augmenti Scientiarum dresse le tableau des sciences que l'on veut restaurer et fait une classification de celles-ci en s'appuyant sur les différentes facultés de l'âme. Combattre les préjugés. Bacon détermine 4 sortes de préjugés obstacles à la connaissance. Le premier est les préjugés de la tribu, c'est-à-dire les a priori de l'humanité entière. Nous jugeons les choses en fonction du rapport qu'elles ont avec nous et non en fonction de ce qu'elles sont réellement. Le deuxième est les préjugés de la caverne. Une allusion au mythe platonicien de la caverne. Chacun d'entre nous juge selon ce qu'il est, selon son éducation et selon sa nature. Le troisième, les préjugés de la place publique sont issus de nos faits sociaux, de notre langage, d'une appartenance à une religion, etc. Le quatrième, les préjugés du théâtre proviennent des doctrines et théories philosophiques. Il ne faut pas, comme les scolastiques, avoir des idées a priori, des idoles de clan, de parti, d'école ou de temps. De même, il ne faut pas voir dans cette même nature partout des intentions et parce que le soleil chauffe, croire que c'est uniquement pour nous. Classification des sciences. Sa classification des sciences se fonde essentiellement sur les facultés de l'âme qui sont la mémoire, d'où est issue l'histoire naturelle ou civile, l'imagination, d'où est issue la poésie, la raison, d'où est issue la philosophie. Divisée en philosophie première, qui sont les axiomes communs à toutes les sciences, et 3 branches, dont les objets sont Dieu, la nature et l'homme. Bacon fait entrer dans sa classification la science expérimentale, dont il précise la méthode dans le Novum Organum. C'est à la science naturelle qu'il donne la première place et aucune à la mathématique. Hobbes. Thomas Hobbes défend une philosophie matérialiste, la morale despotique et le despotisme politique. C'est à Plaute qu'il emprunte la célèbre formule « l'homme est un loup pour l'homme ». En effet, pour lui, à l'état de nature, les hommes sont des dangers les uns pour les autres et pour eux-mêmes. Pour éviter une destruction totale de l'espèce humaine, il faut s'en remettre à un prince détenteur de tous les pouvoirs, puisque seule sa présence leur garantit la vie. Il sépare également la théologie de la philosophie. Il faut s'attacher à ce qui est possible de penser et non de croire. Le Léviathan, de tous les ouvrages de Hobbes, est sans conteste celui qui a le plus d'influence. Le titre est emprunté à la Bible, il fait référence au monstre aquatique mentionné dans le livre de Job. Sa description le fait plutôt ressembler à un crocodile, mais il symbolise l'État. Hobbes développe là les principes de la politique. Son originalité tient au fait de fonder le pouvoir absolu du souverain, non sur un droit divin, mais sur un contrat social. L'homme est présenté comme n'ayant pour autre souci que la conservation de son espèce. Pour l'assurer, il rentre en lutte avec ses congénères. La force fait droit. Mais cet état de guerre étant plus nuisible qu'utile à la conservation, la paix est donc préférable et pour l'obtenir, les hommes font entre eux des contrats.
Un peu de technique. Comment se forment les idées? La pensée, d'après Hobbes, ne peut exister que par la sensation, et l'esprit n'est lui-même qu'un composé de sensations. S'il est possible de penser ce qui n'est ni vu, ni entendu, ni senti, c'est en fait par la mémoire, elle-même une sensation ancienne conservée par le cerveau. La combinaison de sensations forme les pensées qui donnent naissance à leur tour aux idées. Les idées s'associent en fonction de lois obscures et qui peuvent être désordonnées dans la rêverie ou organisées dès qu'elles tendent vers un but assigné.
Le cartésianisme. Célèbre philosophe français du début du XVIIe siècle, René Descartes est considéré comme le fondateur du rationalisme moderne. La philosophie morale stoïcienne et la philosophie scolastique, dont il reprend la terminologie, sont les principales sources de ses concepts. Le cartésianisme se répand rapidement en Hollande et en France, en Allemagne, en Angleterre et en Italie. Toute la philosophie moderne se reconnaît bientôt en Descartes. Ce que nous a légué surtout l'esprit cartésien est l'idée critique qui marque le plus profondément notre philosophie moderne sur le problème de la connaissance. De son système de pensée naît un double courant, le rationalisme, illustré par Malebranche, Spinoza et Leibniz, et l'empirisme qui en est dépendant puisqu'il se présente comme son adversaire, avec pour principaux représentants Locke, Berkeley, Hume. La règle de l'évidence. L'originalité de la philosophie de Descartes se résume dans son idée directrice qui est la volonté d'étendre à tous les domaines de la connaissance la méthode mathématique. La méthode de Descartes peut se résumer ainsi. N'accepter comme vrai que ce qui est évident. Accepter pour vrai tout ce qui est évident. Ce premier précepte, appelé aussi règle d'évidence, conduit cependant à se demander « qu'est-ce qui m'assure de l'évidente vérité de telle ou telle idée ?» Il peut y avoir de fausses clartés et l'évidence être trompeuse. Cela parce que le jugement ne dépend pas de l'intelligence, mais de la volonté libre. Intuition et synthèse. L'intuition naît seule de la raison et est d'ordre purement intellectuel. Ainsi, pour Descartes, chacun peut voir par intuition qu'il existe, qu'il pense, qu'un triangle se détermine par trois lignes. Mais nos idées simples sont rares et les idées complexes fréquentes. Trois préceptes posent les règles et se résument ainsi. Analyser, faire une synthèse et dénombrer. L'analyse est un procédé qui remonte jusqu'au principe et ramène l'inconnu au connu. La synthèse consiste à reconstituer le complexe à partir du simple. La force du doute. Le doute, chez Descartes, est méthodique, non sceptique. Et trois domaines sont en deçà, la méthode, la religion, la morale. Lorsque l'idée n'apparaît pas clairement, la méthode aide l'esprit à revenir aux opérations élémentaires, en mettant en évidence un ordre dans celle-ci. C'est ce qui précède toute philosophie. Quant à la religion, elle échappe à une méthode car ses vérités dépassent l'entendement. Enfin, la morale a pour dessein non le vrai, mais le bien. Descartes présente sous la forme d'un syllogisme le cogito qui signifie « je pense ». Pour penser, il faut exister. Je pense, donc j'existe. La caractéristique du cogito est d'être une évidence rationnelle, une intuition, la saisie immédiate d'une nature simple. Le cogito permet ainsi de déduire d'autres existences comme celle du moi. Le moi occupe ainsi une place importante dans le système cartésien. C'est à partir du moi qu'il faut reconstruire tout le savoir humain. Il est synonyme de pensée, de pur esprit. Moi ou mon esprit, écrit Descartes dans les Méditations. La métaphysique cartésienne. C'est en 1644, dans la première partie des Principes de la philosophie, que Descartes expose le système des connaissances humaines en reprenant la comparaison stoïcienne de la science humaine avec un arbre. Les racines en sont la métaphysique ou philosophie première, le tronc la physique et les branches porteuses de fruits, la médecine, la morale et la mécanique. Les méditations métaphysiques contiennent déjà tous les fondements de sa physique. Celle-ci a pour but de montrer que l'ensemble de la nature peut trouver une explication mécanique. Mais avant tout, sa philosophie conteste les idées reçues. L'existence de Dieu repose sur une double démonstration. Il n'y a que deux voies par lesquelles on puisse prouver qu'il y a un Dieu, savoir l'une par ses effets et l'autre par son essence ou sa nature même, écrit Descartes dans les Méditations en réponse aux premières objections. La première démonstration s'appuie sur le principe de causalité, la seconde sur la preuve ontologique qui est appelée ainsi depuis Kant. Quoique Descartes s'appuie sur Dieu comme sur son principe, il ne cherche pas à le prouver. Après l'avoir pris pour base de raisonnement, il le prend pour but de raisonnement. Le dessein de la métaphysique est avant tout de fonder la physique mathématique. Celle-ci n'admet qu'une explication mécaniste des phénomènes par figure et mouvement. Elle exclut aussi la recherche des causes finales, Dieu étant la cause finale du monde. Spinoza. Rejeté en 1656 par la communauté juive, Baruch Spinoza se consacre exclusivement à la philosophie en pratiquant le métier de tailleur de lentilles optiques pour subvenir à ses besoins. Son ouvrage principal, l'Éthique, est publié en 1677. Son titre latin, Ethica ordine geometrico demonstrata, signifie « réaliser en fonction des lois géométriques ». Ses autres grandes œuvres sont le court traité de Dieu, de l'homme et de la béatitude en 1660, le traité de la réforme et de l'entendement en 1661, le principe de la philosophie de Descartes en 1663, les pensées métaphysiques en 1663, le traité théologico-politique en 1670. Dieu et ses attributs. Spinoza pense l'identité de Dieu et de la nature. Parmi les attributs divins, deux seulement nous sont accessibles. La pensée, ainsi que l'avait déjà avancé Descartes, est l'étendue. Tous les événements qui surviennent sont rigoureusement déterminés. La souffrance et la haine répondent à une logique interne. Dieu a des attributs, mais aussi des manières d'être et des modes de modification, c'est-à-dire tout ce que nous voyons, sentons, touchons. L'âme humaine, qui vient de Dieu et est de Dieu, se présente comme un développement nécessaire de Dieu lui-même. La morale, forme de sagesse. Pour Spinoza, la morale réside dans le fait d'adhérer à l'ordre universel. Elle se situe en opposition à l'homme qui se croit libre et recherche un bien individuel sans se soumettre aux lois nécessaires qui, justement, sont le bien lui-même. L'homme qui se veut et se croit libre renie Dieu. La plus grande sagesse, la plus haute vertu commence par se croire entre les mains de Dieu, comme l'argile entre les mains du potier, en tentant de percevoir ses desseins. Leibniz. Gottfried Wilhelm von Leibniz est bibliothécaire des ducs de Brunswick-Lunebourg à partir de 1676. Mais il est également mathématicien, inventeur du calcul différentiel, juriste et philosophe. En 1685, sa philosophie est constituée. Ses principaux ouvrages sont « Le discours de métaphysique » en 1680, « Les nouveaux essais sur l'entendement humain » en 1705 et « Les essais de Théodicée » en 1710. L'ensemble de sa pensée est présenté dans une œuvre testament, la Monadologie en 1714. Selon cet ouvrage, tout être est composé de monades qui peuvent être classifiées, depuis les monades inférieures qui n'ont des concepts qu'inconscients, jusqu'aux monades supérieures comme l'âme de l'homme douée de conscience. Dieu, qui est la monade la plus élevée, possède une conscience infinie de toute chose. Chaque monade est accompagnée dans l'univers de sa représentation avec laquelle elle forme un tout harmonieux. Locke. La vie de John Locke est étroitement liée à la seconde révolution anglaise, quand le roi catholique Jacques II est contraint de fuir, en 1688, pour laisser le trône à sa fille protestante Marie et à son époux Guillaume d'Orange. Un monarque autoritaire est remplacé par un couple libéral qui, en jurant de respecter la Déclaration des droits de 1689, met en place la monarchie tempérée. L'enfance du philosophe est marquée par la guerre civile. Ensuite, il suit des études médicales pour ne venir à la philosophie qu'en 1671. Dans son essai sur l'entendement humain, il se pose la question de la nature et celle de l'entendement humain. Mais Locke est aussi connu pour être un théoricien du contrat social. Ses principaux écrits sont « Les deux traités de gouvernement civil » en 1689 et « Lettres sur la tolérance » en 1689. Une théorie politique. Les deux traités de gouvernement civil font l'apologie du nouveau régime et lui donnent un fondement dans le droit naturel qui conditionne la liberté. À l'état de nature, les hommes sont libres et égaux. Ils suivent d'instinct la loi naturelle. Si cet état est une bonne chose à l'origine, il convient de l'améliorer par le passage à l'état de société afin d'organiser la justice, les échanges, de répandre la prospérité. Devenus plus riches, les hommes doivent alors protéger leurs biens. C'est cette protection qui oblige à organiser la société politique. L'État apparaît alors essentiellement comme le garant de la propriété privée. Plus il y a d'individus qui accèdent à la propriété privée, plus le bien-être se généralise. Désireux d'être libres et propriétaires, les hommes doivent conclure un pacte social fondant ainsi la société politique. Il s'agit de renoncer individuellement à la justice personnelle de l'état de nature pour en transférer ensemble cette fois l'exercice à la collectivité. Le libéralisme. Toutefois, Locke se refuse à placer l'homme en situation de dépendance totale à l'égard de la société. Abdiquer son droit de justice personnelle ne signifie pas se soumettre sans limite à l'État, limité lui-même par la notion de bien commun. Le libéralisme ne demande à l'homme qu'un renoncement partiel à un pouvoir donné, non à tout pouvoir, au contraire des totalitarismes qui exigent de l'individu qu'il s'absorbe entièrement, se fonde dans l'État pour disparaître en tant que « je ». Locke formule le libéralisme dans le cadre d'un État défini, limité et respectueux du droit des gens. Plutôt qu'un contrat rigide, Locke place les relations de l'homme et de l'État dans le cadre plus souple de l'agreement, c'est-à-dire l'acceptation, ou du trust, c'est-à-dire la confiance réciproque. L'État garantit les droits naturels fondamentaux que sont la vie, la liberté et la propriété. Et l'individu consent à se soumettre aux lois tant que le pacte est respecté en demeurant fondé sur la liberté. Dans le cas contraire, il est nécessaire et fondé en droit de rejeter un État devenu tyrannique. Locke propose une répartition tripartite du pouvoir à partir de la loi, avec la loi elle-même, le pouvoir législatif, l'application de la loi, le pouvoir exécutif, les relations de politique étrangère, le pouvoir fédératif. La philosophie au XVIIIe siècle. Dominée par la figure d'Emmanuel Kant, la pensée du XVIIIe siècle ou siècle des Lumières se caractérise par le culte de la raison, le développement de l'esprit critique, la défense des libertés individuelles et la relativité de la morale et de la religion. Sous l'influence notamment de Montesquieu, Voltaire et Rousseau, le champ de réflexion de la philosophie s'élargit alors à la sphère sociale. Le philosophe doit également, par son action, transformer les hommes et la société. Montesquieu. Né à Bordeaux, Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, est reçu à l'Académie française en 1728. Conseiller puis président au Parlement de Bordeaux, il dénonçait déjà en 1721 l'absolutisme dans les Lettres persanes. En 1734, les considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains ouvrent la voie à « De l'esprit des lois » de 1748, comparé par sa place dans la pensée politique à la politique d'Aristote. L'objet de l'ouvrage est d'analyser les diverses formes de gouvernement afin d'écarter les nuisibles corrompus au profit des meilleurs. Il affirme qu'il y a des lois sociales, c'est-à-dire des rapports nécessaires qui proviennent de la matière des choses, puis distingue trois gouvernements: la démocratie, la monarchie et le despotisme. Il établit un rapport naturel entre ces trois types de gouvernements et le climat, la religion et le commerce. Il étudie aussi le rapport de ces types de régimes avec la moralité. La démocratie exige la vertu, la monarchie repose sur l'honneur, quant au despotisme, la crainte est le moyen lui permettant de se maintenir. Fondateur du libéralisme politique, Montesquieu est tenu comme l'un des précurseurs de la sociologie moderne. Son analyse des régimes a pour objet la liberté. Ceci exclut la République, qui privilégie l'égalité et la monarchie si elle ne se préoccupe pas de la gloire du monarque. Une monarchie organisée, c'est-à-dire socialement diversifiée, où les pouvoirs sont répartis et s'équilibrent, se tempèrent mutuellement, est le meilleur gage de la possibilité de liberté. Montesquieu fait de la monarchie tempérée un régime libéral. Les institutions définissent les pouvoirs et leur exercice afin de promouvoir un gouvernement modéré. Le pouvoir législatif, sur le modèle anglais, est réparti entre deux chambres, où le pouvoir exécutif est confié au souverain. Le philosophe ouvre ainsi la voie à la future monarchie parlementaire et à la République présidentielle des États-Unis d'Amérique. Son programme politique est repris sous la Révolution par le groupe des monarchiens, qui est dirigé par Joseph Mounier, prônant la liberté par l'équilibre des pouvoirs, permettant de sauver la monarchie et d'éviter la proclamation d'une république.